Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, je suis en compagnie de Renan de Calon qui a donné une conférence à Luc Andilois dans le cadre des rencontres de Luc qui avait pour titre « La décroissance avant l'heure, critique du luxe au XVIIIe siècle ». Bien, avant que vous découvriez cette conférence, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes avec Renan de Calon. D'où venez-vous et qui êtes-vous ?
Alors, je viens de Bretagne, Finistère Nord, j'enseigne à Paris, à l'Université Paris 1, la philosophie et l'histoire des sciences, en particulier l'histoire des sciences humaines. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis venu vous parler un peu du lien entre écologie et économie.
Comment arrive-t-on à avoir des études aussi brillantes, à un âge aussi jeune ? Parce que, bon, à vue d'œil, Renan de Calon a à peu près une quarantaine d'années, je pense. Quel est l'itinéraire ? Est-ce que c'est une histoire familiale ? Est-ce que c'est un désir personnel qui vous a entraîné dans cette direction et dans ces études longue durée ?
Tous les individus sont travaillés par la grande histoire aussi, ou par l'histoire des générations. Donc il se trouve que mon père a, en 68, fait des études de philosophie. En même temps que de la musique, de la guitare d'ailleurs. J'ai moi-même fait de la guitare, puis de la philosophie. Donc c'est dans une certaine mesure une reproduction. Mais lui s'était arrêté assez tôt pour s'orienter vers l'édition. Et moi, j'ai poursuivi un peu au-delà dans la carrière. C'est-à-dire que j'ai coché un peu les cases qui sont nécessaires pour arriver à faire de la philosophie jusqu'à l'université. Rien de particulièrement glorieux.
Tradition familiale quand même, les études, un milieu dans lequel c'est entre guillemets bien vu de faire des études, ou c'est une ligne, une trajectoire ordinaire, ou est-ce que juste une question de cette nature.
Je viens d'une vieille famille bretonne, et dans les vieilles familles bretonnes, non, on ne fait pas spécialement d'études, la plupart du temps, on reproduit les structures sociales existantes, donc... J'étais le seul à faire des études de lettres, j'étais le seul à faire des études de philosophie sur une quarantaine de cousins que j'ai, donc ça commence à faire un peu de monde. Il se trouve tout de même, j'en ai parlé d'ailleurs dans la conférence, hein, que 68 est passé par là et que ça a eu un effet, c'est une véritable déflagration dans les vieilles familles justement, les vieilles familles à statut, les vieilles familles d'ordre, et donc ça a complètement modifié le paysage, et pour ça, ça me semble particulièrement important de souligner l'importance de mai 68. Me concernant, j'ai toujours vécu ça sans difficulté, même si il est vrai effectivement que les études étaient plutôt orientées vers le commerce dans mes familles, ou éventuellement vers sciences politiques, la politique, que vers la philosophie pure.
Et dans le cadre des études philosophiques, c'est philosophie politique, c'est de quelle nature est l'orientation initiale ?
Alors, l'orientation initiale, elle tient cette fois-ci aux structures qui sont celles de la philosophie en France. Je suis passé par une formation qui est plus proche de la philosophie des sciences, qui passe par ce qu'on appelle la phénoménologie. Il y a une grande école de phénoménologie en France depuis Sartre et Merleau-Ponty en particulier. Par ailleurs, la deuxième grande tradition à côté de la phénoménologie en France, c'est le marxisme. C'est la philosophie marxiste qui a tout de même dominé le paysage pendant une trentaine d'années à peu près. Donc moi-même, j'ai été très marqué par cette formation-là. C'est-à-dire, j'ai été très marqué par le marxisme et par la phénoménologie. Ensuite, je me suis tourné vers une troisième tradition qui émerge dans l'immédiate après-guerre, en tous les cas qui prend ses formes dans l'entre-deux-guerres, mais émerge dans l'immédiate après-guerre sous la houlette d'un personnage qui a beaucoup compté dans l'université, qui est Georges Canguilhem. C'est la tradition de l'épistémologie historique, c'est-à-dire l'histoire et la philosophie des sciences. Et donc c'est plutôt cette tradition-là que j'ai embrassée moi, plutôt que celle qui consistait à faire de la phénoménologie ou faire des études marxistes ou... par exemple, éventuellement, de l'économie hétérodoxe ou de la philosophie critique de l'économie. Donc, je n'ai jamais perdu de vue ces deux éléments de ma formation, phénoménologie et marxisme, mais j'ai plutôt continué dans la voie de l'histoire des sciences. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire des sciences humaines, l'histoire de la linguistique, l'histoire de la psychanalyse, histoire de la sociologie, histoire de l'économie aussi.
Pour faire suite à ça, nous étions rencontrés lors d'un colloque sur les transclasses, qui avait été un colloque extrêmement passionnant, et donc tous les intervenants avaient été, je trouvais, très très investis. On sentait qu'il y avait un vécu à travers tous les témoignages. À travers cette vision et effectivement tout ce qui traverse le XXe siècle, au niveau de ce que vous venez d'évoquer, 68, grand mouvement qui nous permet peut-être d'envisager de refonder le monde. Une réflexion sur justement ce qu'est la société aujourd'hui, et peut-être, enfin c'est un pont par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais la notion de transclasse, est-ce que c'est quelque chose qui a vécu, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore envisageable dans nos sociétés, par exemple ?
Alors, on en avait discuté lors de ce colloque, c'est vrai, il y a quelques mois, qui était l'occasion d'une très heureuse rencontre. S'agissant d'abord effectivement de l'état présent a tout lieu de nous inquiéter, ça c'est vrai. Moi, je suis père de famille, j'ai trois enfants en bas âge, et quand on relate l'histoire glorieuse, soit des mouvements révolutionnaires, soit des mouvements égalitaristes, notamment en France et autour de mai 68, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une énorme régression hein, par rapport à ces situations antérieures. S'agissant des transclasses, les transclasses sont des produits de l'école et d'une croyance justement dans les vertus de l'école, qui est une croyance non pas individuelle mais collective. Croire dans l'école aujourd'hui, c'est très bien, c'est important bien sûr, mais si la société n'y croit plus, les effets ne s'en font plus sentir, en tous les cas pas sous les formes originelles qu'elles ont pris, que ces effets ont eu, dans les années en particulier d'immédiate après-guerre. Lorsqu'on s'est réunis autour des transclasses, on a parlé d'une génération, voire de deux générations, c'est-à-dire soit des gens qui étaient nés dans les années 1900-1910 et qui ont pu commencer à avoir des trajectoires un peu folles dans les années d'entre-deux-guerres, surtout en réalité, ceux dont on a parlé, c'est ceux qui sont nés pendant la guerre ou immédiatement après, c'est-à-dire les enfants du baby-boom, qui ont bénéficié pas simplement d'une scolarité universelle, générale, comme celle qu'on avait inventée au tout début du XXe siècle, mais qui ont pu accéder aux études supérieures. Et qui, accédant aux études supérieures, ont pu effectivement complètement transformer les coordonnées de leur classe. Donc ce qu'on appelle les transclasses, c'est quasiment non pas un phénomène générique à décrire, mais un phénomène de génération. Alors est-ce qu'on a aujourd'hui des transclasses sous cette forme-là ? En tous les cas, sous une forme aussi radicale, c'est difficile à formuler ou à penser. C'est un phénomène manifestement, d'après les sociologues, qui continue, mais qui a tendance effectivement lui-même à refluer, c'est-à-dire pour les générations qui sont en train d'arriver, celles qui sont nées en particulier dans les années 80, 70-80, on a encore des transclasses. On en voit dans les postes politiques, on en voit à l'université, on en voit dans des postes à responsabilité. Mais disons que le phénomène est dans un manifeste net reflux, et j'y vois là, en particulier, la conséquence d'une lente désaffection de l'école. L'école assumant de plus en plus le rôle qui lui a traditionnellement été dévolu, qui est de perpétuer les inégalités sociales et non pas de les transformer. On a eu une ouverture, on a eu effectivement un temps assez glorieux pour l'école et pour l'université, celui des années 60 et 70. Et aujourd'hui, eh bien, force est de reconnaître tout de même qu'on est rentré dans le lit.
Puisqu'on arrive sur un domaine qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse, je pense, beaucoup de gens, c'est la notion justement de l'école aujourd'hui. Nous sommes dans un secteur géographique où les pédagogies alternatives ont une place importante, Montessori et autres pédagogies différenciées. Un sentiment de quelqu'un qui est, je dirais un intellectuel, et c'est pas péjoratif, c'est même une qualité pour moi, sur effectivement ce qu'est l'école aujourd'hui. Est-ce qu'elle tend à redonner une place à la culture ? Ça, c'est la question aussi que je me pose. Et est-ce que, par exemple, il y a des pédagogies qui paraissent favoriser, je dirais, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire le retour de gens de conditions modestes dans ce qu'on appelait à une époque l'ascenseur social ?
Je pense que, en tous les cas, d'après les informations que je parviens à récolter, qui pour ce qui me concerne sont parcellaires, hein, je ne travaille pas du tout là-dessus, mais que en réalité, la véritable révolution dans l'école, si elle va avoir lieu, elle va venir directement des campagnes, puisque ce sont effectivement les lieux de refonte, de redéfinition, de pédagogie alternative que les grandes villes ne peuvent pas se permettre de mettre en œuvre, du fait même d'une démographie qui est particulièrement difficile à contrôler, bien sûr, et à endiguer, du fait même ensuite de directives en particulier qui émanent du rectorat, dont les autorités sont extraordinairement proches géographiquement des lieux d'enseignement. Donc il y a aujourd'hui des lieux d'invention. C'est d'ailleurs, somme toute, je rappelle quand même que la plupart des pédagogies alternatives sont nées dans les campagnes déjà, et que la plupart des grands pédagogues alternatifs, je pense évidemment à Deligny, à Freinet ou autres, se sont la plupart du temps éloignés des grands centres pour cultiver ces méthodes. Ce sont des méthodes essentielles, elles ont fait leurs preuves, contrairement à ce qui est souvent asséné, elles étaient révolutionnaires et elles le sont encore. La question est de savoir, effectivement, jusqu'à quel point elles peuvent ou non dépendre des individualités, c'est-à-dire du courage individuel de tel ou tel enseignant, de telle ou telle enseignante, et non pas simplement des choix politiques effectués dans chacune des régions. Pour l'anecdote, étant fils moi-même de 68 arts, j'ai été formé dans une école Freinet, c'était une des dernières justement de Paris, publique bien sûr, c'était l'école Saint-Merry dans le 2e arrondissement, et j'en ai gardé encore des souvenirs émerveillés. C'est un lieu où justement on a pu apprendre à se développer, où les notes n'existaient pas tout simplement, où on apprenait les métiers manuels autant que les métiers intellectuels, on apprenait à faire de l'imprimerie, on apprenait à devenir bûcheron, on apprenait à faire de la boulangerie, à faire de la céramique autant qu'à faire des mathématiques ou de la géographie. On était environné de psychologues, tous plus nombreux les uns que les autres. Bon, c'est des choses évidemment que l'État aujourd'hui ne peut plus se permettre, ou dit-on ne peut plus mettre en œuvre. Donc c'est manifestement, en tous les cas, ces grandes révolutions pédagogiques, elles dépendent aujourd'hui de l'initiative individuelle d'enseignants, essentiellement dans les campagnes. C'est quelque chose de à la fois assez désespérant du point de vue collectif et en même temps de très beau à voir, hein, lorsqu'on se déplace dans les écoles de campagne.
À travers ce que je viens d'entendre, je me dis qu'il faudra qu'on trouve quelqu'un qui vienne nous donner une conférence, nous parler de ça, parce que je pense que c'est intéressant aussi, à nouveau, d'avoir, comme ça se passe ici, des zones de réflexion et d'expérimentation. Quelque chose qui est le corollaire, à mon avis, et qui est souvent, et j'en parle à titre personnel, un élément extrêmement formateur et peut-être déterminant pour certains, la culture. Alors la culture, c'est toujours, ça fait peur. Je sais que, par exemple, dans le cas des rencontres, il y a plein de gens qui viennent ou qui viennent pas en nous disant « oui, mais c'est pas pour moi, j'ai pas l'habitude d'écouter ce genre de choses, j'ai pas fait d'études », ce genre de commentaires que je comprends parfaitement. Et l'idée des rencontres, c'est justement de favoriser la possibilité de pousser la porte et de se dire « tiens, je vais simplement mettre sur un strapontin et écouter ce qui se dit ». Position sur la culture aujourd'hui, je parle à titre personnel, j'ai connu, bien que je ne les ai que fort peu fréquentés, les maisons de la culture. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont disparu. C'est vrai que les médias ont pris une place importante, Internet et la télévision, mais comment revivifier, je dirais, et permettre à ce qui était, je crois, enfin en tous les cas, je le percevais comme ça, possible pour des gens modestes, c'est-à-dire de pousser une porte et d'arriver sans complexe dans un univers qui était loin de leurs origines.
J'ai pas de leçon à donner à quelqu'un qui le fait déjà au quotidien, c'est-à-dire, là en l'occurrence, ça dépend une fois encore, hein, c'est exactement comme l'éducation, des initiatives individuelles et du maillage aussi culturel qui est disponible, sachant qu'on peut voyager léger ou que lorsqu'on a besoin de voyager avec les outils qui sont ceux de l'État, ces outils sont à la fois lourds, encombrants, difficiles à manier et surtout dans une situation de rareté qui est très, très problématique. Je note tout de même qu'on a quand même largement fini avec cette représentation qu'on avait, qui était aussi bien géographique que culturelle, l'idée selon laquelle on avait en France Paris et le désert français, c'est-à-dire que le lieu de concentration et démographique et culturel était essentiellement la capitale et que le reste de la France était un désert culturel et qu'il s'y passait absolument rien. J'ai été émerveillé de constater, lorsque j'ai justement regardé ce qui se passait à Luc avant de venir à la conférence à quel point l'offre culturelle était richissime pour une commune de 500 habitants. Elle m'apparaissait même d'ailleurs beaucoup plus importante que l'offre culturelle qu'on avait à Valence juste à côté, alors qu'on a 60 000 habitants à Valence. Ce qui est un signe du fait que les préfectures vont très très mal, en particulier parce qu'il y a une désaffection des régions et de l'État qui est très très problématique du point de vue culturel, alors que les initiatives individuelles, une fois encore dans les campagnes, permettent de créer, à moindre coût évidemment, avec une mobilisation de chacun et avec un bénévolat à peu près constant, les conditions d'une production culturelle particulièrement vive et particulièrement riche. Le deuxième aspect qui me frappe et qui évidemment m'alerte aussi, c'est le fait que cette production culturelle riche, soutenue par un bénévolat constant, se tourne vers des générations qui sont à la fois la prime jeunesse, la jeunesse et, disons, les seniors, comme on les appelle aujourd'hui, même si c'est une expression insultante, et que les jeunes n'y sont pas encore assez nombreux. Il est extraordinairement difficile de créer, en particulier dans les campagnes, des cadres culturels qui mobilisent la jeunesse, tout simplement parce que l'offre émane essentiellement de la mobilisation de gens qui peuvent disposer du temps pour ces actions bénévoles, soit effectivement qui travaillent à mi-temps, soit la plupart du temps qui soient eux-mêmes retraités, et on est là dans un conflit typique de génération, c'est-à-dire quand la génération du dessus vous apporte une offre culturelle importante, à moins d'être un préado, en réalité vous n'en voulez pas. C'est assez dramatique en réalité, parce qu'on se retrouve avec une offre importante mais qui ne coïncide pas véritablement avec la demande, et en particulier avec la demande de la jeunesse. Donc oui, la culture, on n'en manque pas en France, elle est encore très importante. Il est de fait qu'elle est supportée essentiellement par la génération née dans l'après-guerre ou dans les années 50 ou 60. Elle est portée par elle parce que elle l'a vécue, parce qu'elle y accorde encore une importance considérable. Resterait la question de savoir ce qu'on fait de cette jeune génération qui est née dans les années 80, voire même d'ailleurs dans les années 90 et au-delà, qui n'a jamais connu en réalité ni cru véritablement dans ces valeurs qui ont été transmises quasiment au berceau ou par l'école à la génération précédente, et pour qui cette offre n'a manifestement en tous les cas soit aucune signification, soit une signification, disons, au mieux périphérique.
Bah, on va terminer sur une question plus personnelle, parce qu'en rapport avec ça justement, c'est... On parle de, il y a deux moyens, enfin de penser, je pense d'y accéder de manière liée à la structure familiale, ce que les parents nous transmettent, nous permettent de découvrir, et puis là, je dirais ce que nous offre la société à travers l'école en particulier, puisque c'est ce qu'on a évoqué précédemment. Juste une dernière question sur ce sujet-là, est-ce qu'on doit imaginer ça en termes de partition, de deux univers qui se regardent l'un l'autre et qui ne collaborent que peu, ce qui est souvent le cas en règle générale. L'école offre très peu de place aux parents, en tous les cas dans les systèmes de la République française. Voilà, juste une dernière réflexion sur le sujet. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de creuser dans les semaines, voire dans les mois à venir.
Eh bien, j'avais été particulièrement choqué lorsqu'un ministre de l'Éducation d'un gouvernement de droite, il y a quelques années, avait consacré un de ses livres à l'éloge de la famille. Ça avait pour moi une signification simple, c'est que celui qui était en tâche de promouvoir des structures d'État pour défendre la culture et l'éducation confiait à la famille le soin de le faire à sa place, autrement dit, bien enclencher un mécanisme qui était celui de la reproduction la plus stricte, la plus totale des inégalités, c'est-à-dire les familles à haut capital culturel allaient vivre entre elles et celles qui n'en avaient pas, de toute façon, étaient condamnées à survivre par leurs propres moyens, ou à ne pas survivre du tout d'ailleurs, puisqu'on se moquait bien de leur destin. Donc oui, est-ce qu'il y a un face-à-face entre famille et comme institution primitive, si je pourrais dire, et État et sphère étatique, c'est certain, mais je pense aussi, on pourrait quasiment tenir par rapport à cette question culturelle aussi un discours anarchiste, je pense aussi qu'on n'a pas forcément grand-chose à attendre de l'État, et beaucoup à attendre des initiatives collectives, des communes, des coopératives, des associations en matière culturelle aujourd'hui. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut être capable de repenser le lien des associations à la traditionnelle et nécessaire opposition des générations. C'est-à-dire qui offre quoi, dans quel contexte et à quelle fin. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'État apporte effectivement des subsides relativement importants pour la prime enfance, mais cette prime enfance, l'obsession à laquelle on la subordonne, c'est l'apprentissage des fondamentaux, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc effectivement, l'État dépense des sommes considérables à l'apprentissage mécanique de quelques fondamentaux qui sont d'ailleurs enseignés le mieux possible. Mais en réalité, toute la sphère culturelle est totalement vidée de sa substance, ou en tous les cas totalement négligée ou marginalisée, en particulier lorsqu'il s'agit de passer le seuil des 11 à 18 ans, c'est-à-dire d'un moment qui est particulièrement structurant et particulièrement important dans la formation culturelle d'un jeune adulte. J'ai le sentiment, effectivement, que socialement, on a non pas sacrifié une génération, mais on a sacrifié une classe d'âge. C'est-à-dire aujourd'hui, les 11-18 ans sont des âges qui sont à la fois particulièrement importants du point de vue du développement individuel et qui sont culturellement des déserts, justement, parce que eh bien, l'offre qui est produite par la génération du dessus dont on ne veut pas, et l'État lui-même n'assume pas l'offre réelle. Donc là, je pense qu'il y a une question à se poser du point de vue associatif, du point de vue du maillage associatif, qui est quelle offre adresser à cette jeunesse, dans quelles conditions, et qui peut véritablement le faire pour que ce soit efficace.
Bien, c'est sur ces mots qui sont peut-être un avenir, qui en tous les cas, oui, pose la question de comment on collabore. La collaboration, je crois, c'est quelque chose qu'on a développé à tous les niveaux et qui n'existe pas véritablement, enfin, pas toujours. Et on le verra à travers la conférence, même si la conférence est loin de ce qu'on vient de dire, mais elle est toujours contenue dans ce qu'on vient de dire, j'en suis convaincu. Donc j'espère que cet entretien vous aura donné le désir d'aller plus avant et donc de découvrir la conférence de Renan de Calan, qui, je pense, venait chez nous pour la première fois, mais il viendra certainement à nouveau dans les années futures, et peut-être dans les mois futurs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.